Et le journal est présenté par Sébastien Berriot. Bonsoir à nouveau.
Bonsoir à tous. Dans ce journal, les premières entreprises qui se retirent du marché iranien quelques heures après l'entrée en vigueur des sanctions américaines. C'est le cas du constructeur automobile allemand Daimler qui veut préserver ses intérêts aux États-Unis. Pascal Thibault nous appellera de Berlin. Cérémonie d'hommage au Kenya et en Tanzanie aujourd'hui, 20 ans après les attentats de Nairobi et Dar es Salaam. La menace terroriste est toujours aussi présente dans l'Est africain et le Kenya est devenu au fil des années le principal allié des États-Unis dans la lutte anti-djihadiste. On sera à Nairobi avec Laure Broulard. En France, des documents de la police dans l'affaire Benalla qui viennent contredire les déclarations du préfet de police de Paris devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. On verra ça avec Sophie Delpont. Une tribune dans le journal Le Monde de plusieurs associations culturelles. Elles accusent le chef de l'État et le Premier ministre de mener une entreprise de démolition du ministère de la Culture. Explication signée Anne Fauquemberg. Premiers effets donc très concrets des sanctions américaines contre l'Iran qui sont entrées en vigueur la nuit dernière. Des entreprises ont commencé à annoncer qu'elles ne travailleraient plus désormais avec les Iraniens et pas n'importe quelle entreprise. L'une des premières à se retirer du marché iranien, c'est l'allemand Daimler, le numéro 1 mondial de la voiture haut de gamme. On disait hier que l'Union européenne voulait protéger ces entreprises pour leur permettre de continuer à travailler avec l'Iran malgré les sanctions. Mais dans le cas de Daimler, les menaces américaines ont visiblement été plus fortes. En Allemagne, correspondance de Pascal Thibault.
Nous sommes heureux que les entreprises allemandes mettent fin à leur contact avec l'Iran. L'ambassadeur américain en Allemagne, qui avait intimé en mai à ces mêmes entreprises de se retirer de ce marché, se félicite cet après-midi sur Twitter. Richard Grenell, un faucon proche de Donald Trump, réagissait à l'annonce de Daimler de cesser jusqu'à nouvel ordre ses activités en Iran en raison des sanctions économiques américaines rétablies ce matin. Le constructeur automobile prévoyait de fabriquer sur place et de vendre des camions Mercedes dans le cadre d'un partenariat avec des entreprises locales. Daimler, qui a été présent en Iran pendant 5 décennies jusqu'en 2010, évoque également l'évolution moins favorable de l'économie du pays et de son marché automobile pour justifier sa décision. D'autres grandes entreprises allemandes préfèrent se retirer par crainte des sanctions américaines. C'est le cas d'Adidas qui avait signé un contrat avec la Fédération iranienne de football l'an passé ou encore de Siemens. Son PDG a comparé récemment en chiffres les enjeux pour son entreprise. 60 000 salariés aux États-Unis et 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 600 millions en Iran. D'après la Chambre de commerce germano-iranienne, les PME allemandes pourraient ne pas modifier leur stratégie si elles sont absentes du marché américain. Cela vaut notamment pour les machines-outils. Les ventes allemandes vers l'Iran avaient augmenté de 16% l'an passé, pour une part cependant modeste des exportations germaniques de 0,2%. Mais la RFA est cependant un partenaire commercial important, des liens hérités du passé. Dans les années 70, ce pays était le deuxième partenaire économique de l'Allemagne à l'extérieur de l'Europe, derrière les États-Unis.
Voilà, Pascal Thibault de Radio France Internationale pour France Culture. Et la Russie, de son côté, s'est dite profondément déçue après le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran. Le Kenya et la Tanzanie commémorent aujourd'hui le 20e anniversaire des attentats de Nairobi et Dar es Salaam. C'était en 1998. Attentats qui avaient visé de manière successive les ambassades américaines dans les deux villes et qui avaient fait près de 250 morts. C'était à l'époque la première apparition sur la scène internationale du groupe Al-Qaïda. Première attaque de masse perpétrée par l'organisation terroriste bien avant les tours jumelles. Une cérémonie sobre s'est déroulée tout à l'heure à Nairobi, en présence des familles de victimes et des survivants. Si aujourd'hui Al-Qaïda a perdu de sa puissance, le terrorisme est loin, très loin d'avoir disparu en Afrique de l'Est. La menace a évolué et la réponse aussi a changé. À Nairobi, précision de Laure Broulard.
Ces attaques ont révélé une menace nécessitant une réponse collective et coordonnée, a déclaré Martin Kimani, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme kényan, lors des commémorations ce matin. En 1998, l'explosion avait véritablement choqué le pays, qui n'était pas préparé face à une menace considérée comme extérieure. Aujourd'hui, tout a changé. Depuis la naissance du groupe Al-Shabaab en 2006 en Somalie, le terrorisme s'est immiscé dans la vie des Kenyans. Suite à l'engagement du pays au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, les Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont lancé des attaques d'ampleur au Kenya. Contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013, 68 morts, et contre l'université de Garissa en 2015, plus de 100 morts. Après cela, le gouvernement a abandonné une politique sécuritaire, souvent répressive à l'encontre des communautés musulmanes, au profit d'une approche plus sociale, explique Muriti Mutiga, chercheur à l'International Crisis Group. Résultat, pas d'attentats d'ampleur depuis 2015, même si les attaques sont encore courantes dans le nord du pays, près de la frontière somalienne. La coopération avec les puissances occidentales s'est également approfondie ces dernières années. Financement, formation des forces de sécurité ou encore partage de renseignements, le Kenya est aujourd'hui le principal allié des États-Unis dans la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Est.
Au Proche-Orient, deux membres de la branche armée du Hamas ont été tués ce mardi dans une frappe de l'armée israélienne qui visait le nord de la bande de Gaza. L'armée affirme avoir répliqué à des coups de feu contre des soldats israéliens. En France, on en sait un petit peu plus ce soir sur ce qui s'est passé le 1er mai dernier à Paris, sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est à cet endroit qu'une vidéo a montré Alexandre Benalla en train de frapper des manifestants. Le journal Le Monde a eu accès à des courriers des enquêteurs transmis au procureur de la République. Et on apprend que ce jour-là, le couple qui a été molesté par l'ancien collaborateur de l'Élysée n'a pas cherché à dissimuler son identité. Le problème, c'est que ces informations viennent contredire les déclarations du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui s'était exprimé devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Déclaration faite sous serment, Sophie Delpont.
Oui, devant les députés, Michel Delpuech avance que les deux trentenaires violentés par Alexandre Benalla avaient déclaré de fausses identités et n'avaient pas de papier sur eux. Deux éléments pouvant jeter le discrédit sur le couple, alors en plein cœur de l'affaire. Sauf que les documents mentionnés par le journal Le Monde sont formels. Selon le rapport de police, la jeune femme a présenté ses papiers à Michel Mizerski, Philippe Mizerski, le commissaire en civil chargé d'accompagner Alexandre Benalla pour son observation. Et c'est le même commissaire qui aurait rédigé la fiche entièrement renseignée pour son compagnon avec son nom et son adresse exacte. Les deux trentenaires ont bien lancé des projectiles au moment d'une charge de CRS. Un geste déplacé, souligne leur avocat. Mais les deux jeunes gens, un cuisinier et une graphiste, n'avait pas d'antécédent judiciaire, aucun lien avec la mouvance Black Bloc et aucune violence grave ni répétée ne leur a été reprochée, selon le courrier de la Sûreté Territoriale de Paris, un service situé sous l'autorité de la préfecture de police, cité par le journal. Michel Delpuech a donc transmis de fausses informations sous serment devant une commission d'enquête. Rappelons que selon le code pénal, un témoignage mensonger dans ce cadre est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Merci Sophie Delpont. SOS Racisme réclame la vérité sur les incidents de Beaune fin juillet en Bourgogne. Dans un quartier populaire de la ville, 7 personnes âgées de 18 à 25 ans avaient été blessées par des inconnus, des tirs au fusil de chasse depuis une voiture. SOS Racisme estime que la justice sous-estime la piste raciste. Le ministère de la Culture est-il en train de perdre une partie de ses pouvoirs et de sa marge de manœuvre? Le sujet est au cœur d'une tribune publiée cet après-midi dans la presse par plusieurs associations culturelles. Et c'est l'exécutif qui est visé, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, accusés de mener, je cite, une entreprise de démolition du ministère de la Culture. La tribune est notamment signée de l'acteur Robin Renucci qui préside l'association des 38 centres dramatiques nationaux, et les termes sont très sévères pour l'exécutif, hein, Anne Fockenberg.
Oui, c'est d'abord la méthode de gouvernance qui est dénoncée. Selon les signataires, le président de la République délégitimerait l'action de son propre ministère de la Culture en diminuant, par exemple, progressivement son périmètre d'action, en réduisant les effectifs du cabinet de sa ministre ou en procédant à la nomination de chargés de mission qui pilotent en coulisses les réformes. C'est ce qui a pu se produire, par exemple, pour la réforme de l'audiovisuel. Et dénoncer également le manque de moyens dans les DRAC, les directions régionales de l'action culturelle dont les effectifs sont mis à mal par la fusion des régions. Et puis au-delà de la méthode, le fond des réformes actuelles est aussi critiqué, notamment ce fameux pass culture sur lequel Françoise Nyssen compte s'appuyer pour lancer sa rentrée. Pas assez ambitieux, estime Robin Renucci, qui le voit en l'état comme un objet de consommation et non pas comme le moyen de réinvestir l'espace public. Mais plus globalement, selon lui, il faut que la ministre ait la possibilité de prendre une place plus forte dans ce binôme référentiel de la Ve République entre le président et le ministre de la Culture.
Le binôme du ministre de la Culture et d'un président de la République, c'est essentiel pour la France. Celui-ci, peut-être, a été discordant, en tout cas, peut-être pas très fort, apparemment. Et comme nous souhaitons le renforcer, eh bien, j'espère qu'il le deviendra, ce tandem nécessaire et qui a marqué les grandes heures de notre pays. Donc, nous sommes là pour le renforcer, encore une fois, en s'appuyant sur les acteurs et sur l'ensemble de tous les créateurs, mais aussi tous ceux de la chaîne de la transmission et de la formation et de l'éducation, il devra, à mon avis, se renforcer dans les mois qui viennent. Sinon, nous serons en situation de constater qu'il n'a pas fonctionné.
Et Anne Fokkenberg, pourquoi cette tribune arrive aujourd'hui ?
Eh bien, c'est dans les coulisses du Festival d'Avignon que l'idée de ce texte est née. Tous les acteurs, évidemment, de ce qu'on appelle la décentralisation culturelle se sont rencontrés. Ils ont pris acte, en quelque sorte, de cette verticalisation du pouvoir qu'ils dénoncent sous Emmanuel Macron. Une tribune qui étonne au ministère de la Culture, alors que Françoise Nyssen a réaffirmé son soutien mi-juillet dans le journal Libération à ce qu'on appelle la démocratisation culturelle. Une source du ministère rappelle les engagements de la ministre, le plan culture près de chez vous, notamment 10 millions d'euros pour mettre fin aux zones blanches dans les territoires délaissés. Il y a aussi le pass culture qu'on avance, un pass culture qui n'est pas du tout un objet de consommation, mais qui va s'appuyer, selon le ministère, sur l'offre locale. Et puis la ministre, rappelle-t-on, eh bien, la ministre, elle a tout le soutien du président de la République.
Merci Anne Fokkenberg. À Paris, une belle revanche pour Marcel Campion. On se souvient, il y a quelques mois, du bras de fer entre Anne Hidalgo et celui que l'on appelle le roi des forains. La mairie de Paris avait supprimé le marché de Noël sur les Champs-Élysées. Eh bien, Marcel Campion va finalement pouvoir s'installer à nouveau dans la capitale, cette fois dans le jardin des Tuileries. L'information a été révélée ce matin par nos confrères de France Inter. Elle est confirmée cet après-midi par le propriétaire des lieux, le musée du Louvre. C'est ça, Antoine Maret ?
Effectivement, le jardin des Tuileries appartient désormais au domaine du Louvre et dépend donc indirectement du ministère de la Culture. Selon la direction du musée, il s'agit d'une simple location des lieux, comme il y en a par exemple pour la Fashion Week ou encore le Salon des Antiquaires. La société de Marcel Campion a postulé il y a quelques semaines pour occuper cette partie du jardin du 18 novembre au 9 janvier prochain. Officiellement, elle était la seule candidate sur ce créneau-là. D'ailleurs, le forain est bien connu du domaine car il y tient chaque année une fête foraine. Il y aura donc en plus un marché de Noël composé d'une centaine de chalets, une dizaine de manèges et une patinoire. L'intéressé joint au téléphone refuse de commenter cette information. Marcel Campion tiendra une conférence de presse à la fin de l'été, sans doute pour savourer publiquement sa revanche sur Anne Hidalgo. La maire de Paris, vous le disiez, avait décidé l'année dernière de supprimer le marché de Noël qui se tenait à quelques centaines de mètres de là, sur les Champs-Élysées. Elle lui reprochait notamment la piètre qualité des produits vendus. Cette fois-ci, Marcel Campion promet un marché gastronomique avec des producteurs français. Certains y verront la petite victoire d'un forain face à une municipalité. D'autres y devineront un coup de main de l'Élysée pour déstabiliser un peu plus Anne Hidalgo en vue des prochaines municipales. Ni la mairie de Paris, ni le ministère de la Culture, ni l'Élysée ne commandent pour le moment cette nouvelle affaire Campion.
Merci Antoine Maret. En Algérie, traditionnellement, la période d'été est aussi celle des festivals de raï qui se déroulent un petit peu partout dans le pays. Mais cette année, les organisateurs de ces concerts font face à une nouvelle forme de contestation. Des manifestations et des prières de rue collectives ont été organisées dans plusieurs villes pour réclamer l'annulation des festivals, jugés par certains contraires à la religion et par d'autres trop coûteux. À Alger, Laïla Berato.
L'interdiction de festivals conduirait en prison dans d'autres pays. Ahmed Ouyahia, le premier ministre algérien, a de nouveau réagi lundi après plus d'une semaine de polémiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « Les festivals sont faits pour les citoyens et il ne faut pas les en priver ». Il y a 10 jours, des manifestants ont interrompu un concert de raï dans la ville de Ouargla, à 700 km au sud d'Alger. Ces hommes, des militants, des membres du mouvement des chômeurs, mais aussi des représentants d'un comité d'habitants, ont protesté en réclamant de meilleures conditions de vie au quotidien et ont organisé une prière face à la Seine. Quelques jours plus tard, à Sidi Bel Abbès, une ville de l'ouest du pays, des manifestants ont tenté d'interrompre la soirée d'ouverture du festival du Raï. Ils se sont rassemblés et ont, eux aussi, organisé une prière collective. Et le débat fait rage depuis. Ces protestations sont-elles le fait de personnes en colère contre l'État qui s'en prennent aux événements étatiques, que sont ces tournées musicales d'été, ou s'agit-il d'intégristes qui s'en prennent à la culture ? La référence au Front islamique du salut et à ses attaques répétées contre la culture est dans beaucoup d'esprits. La Ligue des droits de l'homme a demandé aux autorités de mener des enquêtes et de présenter les responsables de ces manifestations devant des tribunaux. Dans le milieu du rail, on n'est pas particulièrement inquiet. Un producteur explique, la plupart des concerts de cet été se sont tenus sans problème.
Les prévisions de Météo France pour la journée de demain, un temps moins chaud, même si 46 départements sont toujours en vigilance orange pour la canicule. 19 degrés à Cherbourg demain après-midi et 30 degrés à Perpignan. 18h15 sur France Culture, c'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue. Je vous souhaite de passer un excellent début de soirée.